nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Une fois dans sa chambre, assise devant sa coiffeuse, elle regarde le papier que lui a donné son mari. Et l'adresse. Elle se dit qu'elle ne peut pas y aller voir, elle risque d'être vue par son fils. Et quelle honte! Et puis, peut-être que la fille que plus tard risquerait de le lui reprocher. Non! Il faut que cette enquête se fasse par une personne neutre qui ne risque rien. Peut-être un détective privé. Ça existe encore ce genre de personne? On ne voit ça que dans les films. Elle regarde dans les petites annonces. Et comment aborder ce genre de personne? Y aller à voilette? Incognito? C'est fini tout ça. Il n'y a plus d'argent liquide. Tout se paye par carte ordinateur. Va falloir sortir son... Il va voir son nom. La banque va savoir aussi qu'elle a vu un détective. Son mari peut le savoir. Il n'y a plus d'intimité. Nous vivons dans un monde où tout est transparent. Même les SDF ont leur carte SDF qui demandent gratuitement à la mairie. Ils font la manche avec ça. L'argent est versé dans leur compte SDF. Le SDF a un petit écran portatif comme le téléphone portable où la carte peut se poser et pour faire l'aumône et on met la carte sur l'écran du SDF. Puis on marque la somme sur l'écran à l'aide d'un clavier qui se trouve sur l'appareil. Et le SDF a sa somme. Elle sonne sa bonne. Enlève son tailleur pour se mettre en robe d'intérieur rouge. C'est plus tragique. frappe à la porte.
Entrez.
Entre la bonne. Madame m'a demandé.
Oui, ma fille, j'aimerais ce que vous m'apportiez.
Les Doratui Panam.
Ah? Oui, j'ai à voir quelque chose dans les annonces.
Tu vois, madame, si nous l'avons peut-être jeté à la poubelle, je ne l'ai plus, je demanderai au boucher.
Bien, allez voir.
Et la bonne sort. Elle se dit que tout Paris va savoir que madame Franblanc lit Panam. Ça va lui faire de ses pubs. Ils vont même être capables de le mettre sur la couverture du journal avec sa photographie. Nous vivons un monde stupide où la moindre chose, même la plus bête, devient une affaire d'État. Elle sort de sa chambre pour aller au salon. Se détendre et écouter un peu de musique. Une demi-heure plus tard, elle a fini d'écouter sa musique. Elle est toujours assise au salon. On frappe à la porte.
Entrez.
Entre. C'est la bonne. Avec le paname sur un plateau d'argent. Voilà, madame. Le boucher ne l'avait pas, c'est le confort qu'il avait.
Merci.
Et la bonne ressort.
Voyons un petit peu.
Elle ouvre l'hebdo. Fait que d'annonces et cherche détective privé. Enfin, elle trouve trois annonces de filature en tout genre. Voilà. Elle choisit au hasard une adresse qu'elle met sur son carnet. Et sonne pour redonner le journal à la bonne. Le lendemain, elle décide d'aller voir cette agence. Elle ira l'après-midi. Dans sa chambre, son armoire ouverte, elle ne sait pas comment s'habiller pour aller voir ce genre de personnes. Dans les films, ce sont les femmes fatales ou les veuves éplorées qui vont voir ce genre de personnes. Elle décide de s'habiller tout en noir. Tailleur noir, chapeau, sac, chaussures. Pas de maquillage ni bijoux. Surtout, ne pas prendre de chauffeur, mais un taxi. Mais la chose la plus dure, c'est de savoir ce qu'elle va pouvoir lui dire. Il va sûrement l'interroger, la lampe braquée sur le visage. ses acolytes autour d'elle. La vie de son fils est en jeu. Elle bravera tout ça. Elle lui dira qu'elle veut des renseignements pour une affaire d'héritage. Elle s'habille. Et sort de sa chambre. Pour aller au salon. Commander un taxi.
Allô, Taxi Plus, pouvez-vous venir au numéro du faubourg? Oui, Velasquez. Oui, faubourg Velasquez, oui, c'est ça. Très bien. Je vous attendrai.
Un quart d'heure plus tard, on a frappé à la porte.
Entrez.
Entre la bonne.
Madame, un taxi qui attend madame devant chez elle. Le chauffeur est en violente discussion avec lui et lui dit qu'il y a une erreur, que madame n'aurait jamais commandé un taxi, que lui est là. Elle ne lui aurait pas fait cet affront.
Charlotte devient tout rouge. Décidément, avec les domestiques, on n'est jamais libre.
Que peut-elle faire d'autre?
Elle va dire au taxi qu'il y a une erreur. Elle soupire et dit:
vous direz à ce chauffeur qu'il y a une erreur. Vous demanderez, vous donnerez un pourboire et direz au chauffeur que j'ai justement à sortir.
Je trouve très désagréable cette histoire.
Allez vous en occuper lorsque je descendrai, que tout soit réglé.
Bien, madame.
La bonne sort.
Elle soupire, se tord les mains et dit:
ces domestiques se croient tout permis. Nous sommes leurs prisonniers. On leur accorde trop de liberté. Nos arrière-grands-parents avaient raison.
Entrez.
C'est la bonne.
Le chauffeur vous attend, madame.
Bien, je descends. Mon Dieu.
Une fois dehors, il trouve le chauffeur devant la maison. Il lui ouvre la portière. Elle s'engouffre dans la voiture et lui entre.
Il a mis la voiture en marche. Elle lui donne l'adresse. Le chauffeur lui dit: ces chauffeurs de taxi, quelle toupée! Ils vont chez les gens en disant qu'ils ont été appelés pour se faire payer. Mais moi, je savais que madame ne me ferait jamais l'affront de prendre un taxi.
N'est-ce pas, madame?
Oui, bien sûr.
Parce qu'autrement, je ne conduirais pas aussi bien à cause de la peine que madame me ferait et je risquerais de créer un accident.
Elle se dit: maître chanteur.
Enfin, il arrive dans une rue lugubre du 14e. Le chauffeur lui dit, vous êtes sûr que c'est là, madame, que vous allez? Elle lui dit, oui, je vais voir une famille dans le besoin. J'en ai pour une demi-heure à peu près. Il lui ouvre la portière. Elle sort de voiture. Une fois sortie de voiture, elle regarde le numéro de l'immeuble. C'est bien le 49, cette chose horrible, lépreuse. Un immeuble de 3 étages. Elle pousse avec le bout des doigts la porte en bois de l'allée et entre. C'est noir, un vrai coupe-gorge. C'est humide, ça sent les poubelles, un parfum dont on n'a pas l'habitude. Elle regarde aux boîtes aux lettres, dépareillée. Ah, c'est tôt. 2e, c'est marqué sur une grande carte de visite. Le sol est plein de détritus. Elle monte les escaliers de pierre usée avec une rampe en fer, paire en verre bouteille. Il y a entre le palier une fenêtre aux vitres tellement crasseuses que le jour passe à peine. Enfin, elle arrive au 2e étage. Elle s'arrête, hésite. C'est la porte de droite. Elle hésite, soupire et se dit qu'elle n'a pas affronté toutes ces choses domestiques, toutes ces épreuves domestiques pour pas aller jusqu'au bout. Elle ferme les yeux et sonne. La porte est ouverte. Une femme, grande, mince, en blouse grise, cheveux châtains longs, défaits, pantoufles, un enfant dans les bras, une cigarette aux lèvres, dit « Qu'est-ce que c'est ?» Elle dit surprise « C'est bien l'annonce !» La femme la regarde « Oh oui, l'annonce, entrez !» Elle entre. La femme ferme la porte. Un couloir sombre, avec un porte-manteau bourré de vêtements. Elle dit, vous allez aller dans la salle à manger. Il faut que j'aille le réveiller. C'est sa semaine où il fait la nuit. Il travaille dans une usine de produits chimiques. Ça lui demande, mais il n'est pas détective. Oh oui, mais enfin, à 16h. Et c'est surtout pour les voisins. Il ne veut pas que l'on sache ce qu'il fait. Alors il dit détective. Charlotte a envie de s'en aller, mais l'autre la pousse dans une pièce, dite sans la manger. Mob 960 avait du linge de partout, même en étendage, au plafond. Elle dit à Charlotte, je faisais le repassage. La toile est recouverte d'une couverture blanche et il y a un fer à repasser. La femme débarrasse d'une chaise une pile de linge et lui dit « Asseyez-vous ». Elle s'assoit et se dit qu'elle n'aurait pas menti à son chauffeur en lui disant qu'elle allait aider une famille de pauvres. « Bien, je vais chercher mon mari. » Elle laisse la pauvre Charlotte. Elle regarde autour d'elle et se demande ce qu'elle fait ici. La porte s'ouvre. C'est la femme.
J'ai couché le petit. Mon mari va pas tarder. Il se réveille. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en noir, en deuil? Ma pauvre amie, votre mari? Charlotte Jenny lui dit, non, non, pas du tout.
La porte s'ouvre. Entre un grand homme fort, avec des cheveux rares, habillé d'un tricot de corps et d'un bleu de travail. Il va vers Charlotte. Excusez-moi, madame.
Ce n'est rien.
Il lui dit, si vous permettez, nous allons à mon bureau. Elle se lève et le suit. Il est amené dans une petite pièce qui doit être un débarras. Il y a de tout autour du mur. Au milieu de la pièce, il y a des tas de choses. Il s'assoit à son bureau et dit à Charlotte de s'asseoir en face de lui. Asseyez-vous. Elle s'assoit.
Je vous écoute, madame. Charlotte se demande ce qu'elle fait. Non, le détective des fines, ça n'existe plus.
Elle lui dit, eh bien voilà, j'aimerais c'est que vous enquiétez sur une mère et sa fille, que vous sachiez le plus de choses possibles sur elle, les origines, famille, argent, fortune, tout quoi. Elle lui tend un papier. Voilà le nom et l'adresse.
Il regarde le papier et demande « Pourquoi cette enquête ?» Elle entend un bébé pleurer. Elle lui dit
« Puisque vous avez des enfants, je peux vous le dire. Mon fils fréquente cette fille et je m'inquiète qu'elle ne le fréquente que pour sa fortune. »
Il lui dit « Je comprends, je prends votre affaire, madame. »
Je vous dois combien, monsieur ?
Elle lui donne une somme. Elle lui donne sa carte, il la met sur l'écran de l'ordinateur et tape les chiffres. Et demande la griffe de Charlotte, puis lui rend la carte. Elle lui demande :
C'est tout ?
Oui, madame. Je vous donnerai rendez-vous, disons de venir dans une semaine. Je vous dirai tout ce que je sais et vous me direz si je dois continuer la chose. Elle se lève.
Merci, monsieur.
Il se lève et la raccompagne. Elle se trouve dans l'allée tout étourdie, mais heureuse que ce soit fini. Elle descend les escaliers et rit. Elle sort de l'allée. La voiture est déjà là qui l'attend. Le chauffeur lui ouvre la portière. Elle entre. Lui entre aussi.
arrivée chez elle, elle prend un bon bain. Et tout d'un coup, elle se dit que c'est peut-être un maître chanteur.
Mais non, il me ferait chanter pourquoi ? Oui, pourquoi, mon Dieu ?
Le lendemain matin, le détective est dans la rue où habitent les Poncet. Il regarde la façade de la maison. La rue est entre dans le café un peu plus loin. C'est un petit café Jean Polo sombre. Le cafetier qui est au comptoir est un gros homme chauve, cigarette au bec, veste de laine marine usée par-dessus son tablier gris. Le détective va vers lui et commande un canevas. Le bistroquet le sert. Lui demande « Vous êtes du quartier ? Vous connaissez les habitants ?»«
Ouais, pourquoi ?»«
Parce que je suis représentant en assurance. La maison qui est là-bas, avec son mur et son portail, c'est à qui ?»«
C'est une femme et sa fille qui y vit. Tranquille, respectable. Mais c'est pas pour vous. »«
Ah, pourquoi ?»«
Parce que ça reçoit. » Personne, et ça doit avoir un notaire pour s'occuper de ses affaires.
Qu'est-ce qu'elles font ? Le bistroquet lui dit.
Je ne parle pas aux gens, moi.
Elle est ouverte et est entrée une femme maigre dans les 30 ans. Elle est grande, cheveux châtains, habillée d'un manteau gris. Elle porte un sac à provisions. Le bistroquet dit
« Tenez, viens la bonne !»
La femme va se mettre au comptoir. À côté du détective est dit « Rouge !» Et le bistroquet la serre. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.